Jacques Lescuyer, bonjour.
Bonjour René.
J'allais dire une entrée en fanfare, hein, presque. Hein.
Ah bon, pourquoi?
Bah, tu entends la musique, hein.
Oui.
Ça fait un petit peu, voilà, comme ça. Les trompettes, j'allais dire de la renommée, d'une exposition Ézéchiel qu'on peut voir et entendre et qu'on peut s'approprier en ce moment. C'est ça l'intérêt.
Absolument, ça s'appelle les mécaniques poétiques d'Ézéchiel. C'est un bel univers qui a déjà été présenté à la Maison Folie d'Oisem, puisque c'est dans le cadre d'une résidence à l'échelle métropole, à l'initiative notamment de la ville de Lille. Et pendant tout le mois de mars, on accueille ces installations. Il y a 7 installations interactives d'une très grande beauté et poésie.
Bien, en tout cas, Jacques Lescuyer, félicitations en tant que directeur donc, de l'espace culture d'avoir organisé cette exposition interactive. Là, ce qu'on entend, mais c'est justement cet univers hein, que vous pouvez vous appréhender, puisque ce que j'ai fait là, c'est un enregistrement que j'ai fait de mes propres mains, hein, de ce que j'ai joué sur place. Vous pouvez le faire à l'infini en variant les plaisirs.
Ben, ces installations, elles ont la particularité de pouvoir... de pouvoir s'adapter en fonction de l'utilisateur. Enfants, jeunes, adultes, il faut prendre un peu le temps de s'installer justement autour de ces installations interactives pour d'abord en comprendre tout leur sens et comment on peut faire bouger les choses, créer du graphisme et du sonore et du musical.
C'est vrai que ce sont de vrais instruments à votre disposition. Hein. J'ai vu beaucoup d'enfants qui venaient pendant les vacances, là c'était vraiment un régal pour eux.
Ouais, et puis si ces enfants prennent le temps, se posent et prennent le temps de la découverte, c'est magique. Mais les enfants comme les adultes, nous on a proposé, parce que dans le cadre d'une université scientifique, c'est l'occasion rêvée de montrer aux uns et aux autres, et notamment aux chercheurs, ce qui est possible de faire dans le cadre de rencontres entre chercheurs et artistes, puisque ça a été conçu dans le cadre de l'atelier Art Science sur Grenoble, avec le soutien du commissariat d'énergie atomique de Grenoble, et l'Hexagone, qui est une scène nationale de Mélan. Donc c'est vraiment un laboratoire où se créent des projets entre artistes et scientifiques.
Alors c'est vrai qu'à l'espace culture, vous avez déjà accueilli une exposition aussi interactive sur les bols tibétains, qui est aussi le fruit d'une collaboration entre des chercheurs de Lille et des artistes.
Oui, cette exposition, Léonore Mercier, était le fruit d'une collaboration effectivement entre les chercheurs de l'INRIA, IRSICA, et l'école d'art du Frénois.
Mmh. Voilà, donc on ne peut qu'encourager les gens à venir s'essayer à ces mécaniques poétiques. L'univers donc d'Ézéchiel, je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller le voir, c'était complet le concert au Sébasto.
Si, j'étais présent.
Alors
si, bah, c'était magique cette rencontre entre la musique symphonique et puis l'approche électro-dub, électrique, complètement mêlée.
Mm-hmm.
Ouais, c'était magique, quoi. Et avec aussi toujours leur univers visuel, puisque lors de leur tournée musicale, il y a toujours beaucoup d'images sur le plateau et dans une interactivité avec le public.
Donc les mécaniques poétiques d'Ézéchiel seront présentées à l'espace culture jusque quand ?
Jusqu'au 26 mars, tous les jours du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h, sauf le vendredi où on ferme à 13h45.
Très bien. Donc là, j'ai vu qu'une nouvelle exposition s'installait à l'espace culture. On va peut-être présenter aussi notre invité, ton invité d'ailleurs.
Pierre Lechner.
Bonjour Pierre Lechner.
Bonjour.
Donc Pierre Lechner, vous êtes artiste. J'allais dire mais auparavant, je ne sais pas si on peut dire mais auparavant,
oui.
Vous étiez dans le cadre des hôpitaux psychiatriques en charge de votre profession de psychiatre, c'est ça ?
C'est ça.
Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous lancer vers d'autres aventures, les aventures artistiques, faire tout un cursus de formation qui passe notamment par Montréal, etc.
Mmh. Mmh. Eh bien, c'est comme ça que c'est un processus qui a commencé à peu près une douzaine d'années. Et pour moi, c'est assez sérieux. C'est une façon de maintenir une voie une voix et on peut toujours aussi, l'art c'est garder sa, une façon de garder sa sanité aussi. D'après moi, je crois que la médecine, puis je parle seulement surtout, bien sûr, la médecine, la psychiatrie que je connais, la psychiatrie canadienne, est en train de perdre son âme, que nous sommes en train de basculer sur des façons d'agir, des façons de penser qui sont vraiment beaucoup plus proches des entreprises et du business que de ce que j'aimerais croire, hein, la médecine et tous les soins qui sont reliés à ça.
Alors effectivement, on ne peut pas dire que le nombre de malades disons qui ont des problèmes psychologiques, psychiques, se résorbe au fil du temps. Je pense que la société crée vraiment des problèmes qui n'existaient pas avant. Je ne sais pas si elle en résout d'autres qui existaient, qui n'existent plus par contre.
C'est-à-dire que quand on parle de conditions mentales, il est certain que ce n'est pas quelque chose qui est statique. Et que puisque les influences socio-culturelles ont un rôle majeur à jouer sur la création, le maintien, le traitement de ces conditions, aujourd'hui on voit certaines conditions qu'on ne voyait bien sûr pas avant, puis il y en a qui sont disparues, et puis dans les années suivantes on en verra d'autres.
Alors, cette façon de soigner actuellement, elle est, vous le dites, un petit peu industrielle, sinon presque complètement industrielle, quoique il y a quand même encore des psychiatres dignes de ce nom, non ?
Ah oui, absolument, c'est que je ne veux pas... Quand le travail que je fais, justement, est simplement un questionnement que j'espère pourra toucher certaines personnes, que ce soit des soignants autant que des usagers, un questionnement pour regarder la façon dont dans cette exposition, dont la classification des troubles mentaux est en train de se développer. Et puis, parce que depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est devenu une classification rigide et d'un certain type qui est plus proche d'une approche de recherche scientifique que de, je crois, pour moi en tout cas, de la réalité humaine.
Alors, parmi la panoplie de soins possibles ou d'accompagnement possible des malades, il existe par exemple des formes d'art qu'on amène, ou du moins qu'on présente à des patients qui peuvent s'approprier des univers artistiques qui les aident à structurer peut-être ou à trouver sinon un refuge, du moins une voie d'expression.
Ah oui, il y a bien sûr l'art-thérapie qui est quelque chose qui est un peu différent. C'est-à-dire que ça, c'est quand même une méthode d'aider certaines personnes à s'exprimer d'une façon différente que la façon simplement verbale. Alors ça, c'est très important, utile, mais ce n'est pas ça. Je crois que l'art en soi-même est une façon de guérir. Donc pour certaines personnes, et quand je dis l'art, c'est au grand sens. Ça peut être écriture, peinture, etc. L'art peut être une façon douce de se guérir mentalement.
À Villeneuve-d'Ascq, il existe ce magnifique musée, le LAM, oui, qui est une section d'art brut importante. Il existe également ce type de musée à Lausanne, où on peut retrouver des œuvres réalisées par des personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de l'art, mais qui sont habitées, j'allais dire, par l'art.
Oui, en effet. Encore une fois, il y a un certain débat sur est-ce que c'est la meilleure façon de voir l'art qui est fait par des gens qui ont peut-être des troubles ou des conditions mentales. Est-ce que c'est une autre façon de stigmatiser ou de catégoriser ce genre de travail? Parce que tous les hommes sont des artistes. Et est-ce qu'il y en a plus parmi ceux qui ont des troubles mentaux nôtres? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. En tout cas, c'est quand même intéressant. C'est quand même, je peux dire, peut-être que c'est un pas dans la bonne direction de la déstigmatisation que de montrer au public le travail artistique que des personnes qui ont dépassé ou qui ont souffert de troubles mentaux font.
Est-ce que, sinon, la folie, du moins la déraison, peut amener des personnes à faire évoluer l'art, à le porter beaucoup plus loin, dans des univers non encore explorés qui peuvent être passionnants?
Alors ça, c'est un débat. Alors, c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui vont dire qu'ils sont... Il y a toute une littérature au sujet que, en effet, certains états peuvent amener des différentes façons de penser et que beaucoup des artistes, il y a des artistes qui ont eu des troubles mentaux, bien sûr. Mais encore une fois, c'est un débat. Donc je ne suis pas sûr que, je ne suis pas moi même convaincu que c'est nécessairement comme ça.
Quelqu'un m'a profondément marqué il y a un bon moment, il s'appelle Salvador Dali. Est-ce qu'il y a une part de folie en lui? Le génie, on le sait, hein, mais...
Alors, il y a une partie de folie dans chacun d'entre nous. Mm-hmm. Hein? Alors, c'est une question, est-ce que sur ce continuum de ce qui est, on appellerait folie, qui amène certaines personnes dans un bureau de psychiatrie, et la folie qui ne le fait pas. C'est certainement que la créativité se nourrit, et qu'il y a certains gens qui la développent plus que d'autres. Et bien sûr, Salvador Dali, entre autres, et les surréalistes ont développé cela dans leur façon de penser.
Bon, lui, il a aussi développé un univers mercantile hein, derrière ça.
Mais absolument, oui. Alors, il était un très bon entrepreneur.
Ouais, ça, c'est clair. Donc, Pierre Lechner, vous présentez donc des œuvres très prochainement, hein, dès demain à l'Espace Culture de l'Université Lille. Qu'est-ce que vous amenez sur place? Dans quel contexte vous situez ces œuvres-là par rapport à ce que vous réalisez habituellement?
Bon, alors, je me nomme ou je me classifie comme un artiste chercheur, donc je suis intéressé par plusieurs domaines, mais le travail qui est à Lille... présentement, c'est autour surtout de ce qu'on appelle le DSM ou le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. Et à Lille 1, il y a une installation de livres détournés. Donc ce sont tous des livres psychiatriques qui sont reliés, qui sont des DSM donc, ou reliés à cette façon de penser. Il y a donc ces livres-là, et il y a aussi deux satellites expositions, une à la médiathèque de Lausanne, qui commence vendredi, et puis une autre qui est déjà installée à la médiathèque de Fach, qui sont aussi reliées à ce travail-là. L'idée encore de ces travaux, c'est simplement d'une façon peut-être différente, peut-être, j'espère, parfois poétique, d'attirer les gens à regarder ces... bouquin, c'est façon de penser d'une autre façon. De se questionner, est-ce que c'est la seule façon, c'est la meilleure façon, la seule façon de regarder ou de travailler avec les personnes qui ont des conditions mentales.
Donc, dans ces livres-là, est-ce que certains sont plus mis en valeur que d'autres, en fonction de quoi?
Ces livres, sans en dire trop, parce que je veux certainement que les gens aillent les voir pour eux-mêmes, ce que j'ai surtout fait, c'est créer des paysages en sculptant dans le livre lui-même. Alors ce sont des paysages assez variés, certains de ces paysages sont iconiques, même il y en a un qui est relié à donc, ce que j'ai fait juste depuis que je suis ici, c'est les mines de Luz Sanguel, les terrils. Alors, il y a des relations entre des paysages qui sont faits par les hommes et des paysages qui sont faits par le temps. Alors, ce sont ces paysages que j'ai créés dans ces livres pour justement tirer le questionnement sur ces livres. Ne pas oublier que ce sont des livres qui sont créés par les hommes et que continuent à changer avec le temps.
Il y a quelques artistes qui travaillent autour du livre-objet pour... les mettre en termes de matériaux en valeur d'une autre manière. C'est une façon aussi de les détourner. Là, on est plus dans un propos lié à une problématique sociale ou sociétale.
Voilà. Alors, oui, ce sont des livres détournés. Il y a, de nos jours, il y a plusieurs artistes, il y en avait aussi dans le passé, qui ont justement fait des actions sur des livres. Mais dans mon contexte, c'est en effet plus spécifique, puisque je vise surtout des livres qui sont reliés à la psychiatrie, le traitement des conditions mentales.
Donc, au départ, vous êtes canadien. Quel est votre regard sur le bassin minier? Vous parlez de Losangoël, près de Lens, hein, bien sûr, hein, donc une zone qui était autrefois très industrielle, qui se reconvertit avec bientôt l'arrivée du Louvre à Lens, hein, mais aussi toute cette friche industrielle qui se transforme. Et là, par exemple, le 11-19, les deux puits d'extraction, on va dire, les deux terris sont mis en valeur, avec aussi la fabrique de culture commune qui est à proximité. Donc là aussi, il y a une façon de détourner en quelque sorte un univers industriel pour en faire quelque chose d'artistique.
Oui, d'accord. Pour moi, ce qui m'intéresse dans les mines, en particulier, c'est un peu plutôt leur passé. C'est que ce ont été des entreprises et qui ont bien sûr fait beaucoup travailler les gens, mais qui ont un passé assez difficile et que l'on connaît bien dans cette région, et que c'était à travers beaucoup de des gens ont travaillé dur, il y en a qui ont souffert jusqu'au point où ça a été devenu un peu plus humain comme lieu d'endroit de travail. Et je suis intéressé par les mines parce que je tire des connexions avec, par exemple, l'industrie pharmaceutique et la façon dont ça travaille. L'idée qu'il y a des gens qui font des profits sur la maladie des autres, pour moi, c'est un questionnement qu'il faut se donner. Il faut se demander comment ça peut être, comment ça se fait qu'il y a des gens qui deviennent riches à cause des maladies d'autres humains.
C'est vrai que dans le domaine du médicament, les fortunes sont immenses, hein, les bénéfices. Et aussi, je pense qu'il y a de plus dangereux au-delà de l'aspect économique, c'est aussi une certaine forme de directivité ou de pouvoir que ces laboratoires ont sur des populations, et notamment dans certaines régions du monde.
Voilà. Alors il y a toute une politique autour de cela qui doit être questionnée, qui doit être regardée, et c'est un peu ça que j'essaie de le message que j'essaie de les questions que j'espère que les soignants autant que les usagers, quand ils regardent mon travail, vont se dire bon, j'y avais pas pensé, ou peut-être c'est une différente façon, il faudrait peut-être y penser.
Alors, une question qui me vient à l'esprit, mais elle est malhonnête, elle est déloyale. Est-ce que le médicament, dans le cadre de ces grosses industries, a intérêt à soigner ou à guérir?
Voilà, alors, c'est que je crois que, encore c'est une question que je ne peux pas répondre directement parce que c'est les deux, ça dépend de la condition, mais il est clair que quand on rentre dans des entreprises, il y a tout des genres de dynamiques de marketing qui rentrent et que les gens qui travaillent dans ces entreprises ne le font pas de méchanceté aux choses, mais vous commencez à voir les choses d'une certaine façon, que créer des médicaments qui vont créer des conditions, tout ça devient mélangé, ça ne pas guérir, mais simplement soigner, ou que créer d'autres problèmes avec. Enfin, c'est assez complexe. Et on sait très bien de nos jours que, et ça se questionne de plus en plus, que les médicaments ne sont pas toujours, comment dire, les recherches négatives ne sont pas toujours mises au jour, c'est seulement certains types de recherches qui sont mises en public, et tous les effets secondaires ne sont pas toujours prévus, on ne peut pas prévoir tous les effets secondaires. Certains de ces effets secondaires vont se développer à travers des années. Mais qu'il faut faire plus en plus attention, et qu'il n'y a pas de médicaments miracles.
On parle beaucoup, à juste raison, de dépendance par rapport aux drogues. On parle moins de dépendance aux médicaments. Pourtant, beaucoup sont, j'allais dire, accros et accros à vie à des médicaments.
Ah oui, absolument. Si vous voulez, les médicaments, ce sont des drogues qui sont légales, que l'industrie et bon, le système a autorisé. Il y a des drogues qui ne sont pas légales et qui, pour des raisons bien sûr historiques et politiques, ne sont pas légales. C'est une façon de penser avec de contrôler cela. C'est le côté un peu, si vous dire, négatif ou sinistre de tout ça. C'est une façon de contrôler les gens.
Alors, quand on dit contrôle, il y a aussi le contrôle économique, hein, on en parlait, de ce pouvoir des laboratoires. Il y a aussi le contrôle des esprits avec le fait de donner aux gens des camisoles chimiques.
Voilà. Alors, je veux souligner que je ne pense pas que la majorité des soignants qui prescrivent ou qui donnent ces médicaments pensent mal ou pensent faire mal. Mais je crois que c'est les temps qu'ils se demandent encore plus un peu qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Et qu'en effet, ce sont des gens de camisole. Et que ces médicaments ont des effets à longue haleine, enfin de longue durée, même si, et que les données sur longue période, même si on croit qu'ils n'ont pas tant d'effets secondaires, c'est quand même joué avec ce qu'on ne connaît pas. Il est temps qu'on se questionne de plus en plus et, enfin, d'après moi, je peux me le dire, dans ma carrière de psychiatre, au début, je donnais beaucoup plus de prescriptions et fur et à mesure, j'en donnais beaucoup moins et moins. Et parfois même que les personnes qui venaient me voir demandaient les médicaments. Et moi, j'étais de moins en moins prêt à prescrire.
Alors, vous connaissez bien le Canada, vous y habitez régulièrement, vous y êtes né. Mm-hmm. Est-ce qu'au Canada, les gens utilisent moins les médicaments qu'en France? On dit que la France, c'est le pays où on utilise le plus de médicaments en Europe, c'est vrai?
Je crois que c'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est ce que je crois aussi avoir lu, qu'il y a plus de médicaments utilisés, des gens psychotropes, anxiolytiques. Mais ça, il est certain qu'au Canada, on en utilise beaucoup aussi. Et chez des enfants aussi, ce qui est encore un peu plus alarmant parce qu'il y a encore moins d'évidence que ces médicaments sont utiles pour les enfants.
Alors il y a aussi, j'allais dire, un scandale, hein, on peut en débattre, hein, c'est que dans certains pays, très proches, par exemple l'Angleterre, des médicaments sont vendus beaucoup moins cher qu'en France. Hein, et donc là, on peut imaginer derrière le marché que génèrent ces médicaments, et c'est une manne évidemment pour les industriels pharmaceutiques. Mmh. On ne va pas entamer aujourd'hui le débat entre les professionnels de santé et les liens avec l'industrie pharmaceutique, ce serait peut-être un peu long et compliqué à gérer. Mmh. Mais ça mérite au moins une réflexion. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous, j'allais dire, qui vous tourmente, mais au moins qui vous intéresse?
Je n'ai pas
le lien entre l'intérêt des entreprises pharmaceutiques et les professionnels de santé qui utilisent ces médicaments.
Ah oui, alors pour moi ça a été, il y a maintenant plusieurs années, un lien que j'ai coupé. Donc moi personnellement, ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé à refuser d'aller dans des conférences où les pharmaceutiques étaient impliqués. Parce que même si ces pharmaceutiques se disent à être à distance, la réalité, c'est pour moi, c'est une pente glissante. Une fois qu'on rentre dans ce genre de relation avec ces industries, je ne comprends pas moi-même pourquoi mes collègues continuent à avoir ces relations, parce que pour moi, c'est éthiquement dangereux, c'est une pente glissante dangereuse. Il n'y a aucune raison pour laquelle les soignants devraient accepter quoi que forme de subvention ou d'aide parmi des marchands de médicaments. Je pense que les soignants et les médecins en particulier gagnent assez bien pour payer eux-mêmes leur éducation là où il est nécessaire. Et que c'est malheureusement une façon dangereuse de penser qu'il est correct pour les pharmaceutiques de donner des conférences ou de subventionner des voyages, des tas de choses comme ça.
Alors, on n'aura pas le temps non plus d'entrer dans un sujet. C'est est-ce que dans des pays qui sont peu capables, en état d'acheter ces médicaments, il y a moins de problèmes psychiatriques à long terme que dans les pays où on en donne beaucoup?
Ça, encore une fois, je ne peux pas répondre directement à cette question, mais je veux bien dire une chose que c'est peut-être qui est un peu reliée à ça, c'est que on sait depuis bien longtemps que si on voudrait vraiment diminuer le taux, les nombres de maladies mentales dans le monde, la façon la plus efficace, enfin les choses les plus efficaces à faire, ce n'est pas des médicaments, ce n'est pas plus de médecins, ce n'est pas plus de psychiatres, c'est de travailler fort à diminuer la pauvreté, améliorer l'éducation et diminuer les problèmes familiaux. Alors si vraiment on voudrait faire quelque chose, que ce soit à travers le monde, pays, n'importe quel pays, si on veut vraiment, ce sont les trois choses qui, on a déjà bien démontré, là où il y a pauvreté, problèmes familiaux et une éducation qui n'est pas très bonne, on se retrouve avec des taux de conditions mentales qui sont augmentés.
Merci Pierre Lechner. On vous retrouve donc pour cette présentation de vos œuvres à l'Espace Culture de l'Université Lille 1 à partir de demain et jusqu'au 17 avril. Merci aussi Jacques Lescuyer. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.